Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Escobar. Christophe, bonjour.
Salut Benoît.
Comme c'est la première fois que tu passes sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter en une minute, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Christophe Escobar. Je suis principal engineer à Doctolib. Et donc du coup, mon rôle, c'est un rôle un peu transverse. Et je pense que c'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, du coup, le but, c'est de s'assurer qu'il y ait une cohérence un peu dans les choix techniques au sein de plusieurs équipes à Doctolib et aussi de participer à l'analyse de risques qui peuvent parvenir sur la plateforme.
Ah bah écoute, je te propose qu'on enquille sur ça. Effectivement, ça faisait partie des sujets qu'on avait identifiés. Et là, tout de suite, ça pose deux questions. Il y a le côté organisationnel quand tu dis rôle transversal. Et puis, il y a un côté aussi sur le fond du sujet. Sur l'analyse de risque, puisque vous travaillez dans l'e-santé, donc des sujets où vous manipulez des datas un peu sensibles. C'est sur quel versant tu as envie qu'on attaque ?
Je pense que comme on a le temps, si on peut commencer par l'organisationnel, si tu veux.
Allez. Du coup, ce que je comprends, c'est que vous vous retrouvez avec des équipes, tu m'avais dit, des équipes produits avec un fort ownership, donc j'imagine des équipes qui ont... une forte prérogative sur leur domaine et sur leurs produits. Le défi dans ces cas-là, c'est justement comment tu synchronises tout le monde en termes de pratique, en termes de cohérence. Sinon, j'imagine qu'un jour, tu risques de te retrouver avec quelque chose qui est assez éclectique. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous êtes passé par une phase où vous avez souffert de ce genre de choses ? Ou qu'est-ce qui vous a poussé à faire, à créer ce genre de rôle transversal ?
En fait, c'est exactement ça. Il y a plusieurs enjeux. Il y a un peu les enjeux de comment dans n'importe quelle boîte, j'ai envie de dire, dans n'importe quelle boîte, tu as toujours un peu l'aspect conventionnel. Tu arrives, tu as un peu la liste des patterns, des anti-patterns, comment on fait ici. Nous, on a quand même une philosophie, on est très by the book. Par exemple, on utilise la stack Rails, donc on va suivre les guidelines de Rails. On suit la doctrine et tout se passe bien. Ensuite, quand on arrive sur des technologies qui sont un peu moins cadrées, comme par exemple sur le front-end, où c'est quand même des technologies qui évoluent beaucoup avec le temps, et les problématiques que nous, on a rencontrées, c'est que potentiellement, si on a des gens qui poussent une nouvelle version parce que c'est potentiellement la hype ou parce que c'est plus efficace, si jamais ces nouvelles versions elles sont pas poussées jusqu'au bout en termes de migration dans le code, et en fait, il y aura une nouvelle version qui va arriver, une autre, une autre, une autre. Et en fait, pour faire une manière de faire, on va avoir 10 versions différentes. Et là, pour le coup, on arrive sur du legacy. On arrive sur un coût de maintenance qui est très élevé. Et quand on a des équipes qui grossissent comme ce que nous, on peut vivre à Doctolib, en fait, on s'est rendu compte que le coût, il est trop gros. Et pour le coup, pour ce genre de changement, on a besoin de faire attention et de faire le strict minimum.
C'est super intéressant parce que ce que tu dis, c'est que finalement, ce que j'entends en tout cas, c'est que sur la stack Rails, qui est quand même assez standardisée, assez normée, vous n'avez pas tellement de soucis parce que vous vous conformez au standard. Mais sur les technos où tu as plus de liberté, du coup, cette liberté devient un problème, potentiellement. Comment est-ce que vous trouvez la balance entre normaliser les choses, justement, ou laisser les équipes autonomes de faire ce qui leur paraît être la bonne chose à faire ?
La plupart du temps, on laisse les équipes faire comme elles l'entendent. Et ça va être vraiment sur des gros changements qui peuvent impacter plusieurs autres équipes, où là, on va se poser la question. Est-ce que c'est bien la bonne façon de faire ? Est-ce qu'on apporte vraiment quelque chose ? Ou est-ce que ce n'est pas juste une manière détournée de répondre à un besoin à un instant T, mais qui ne répond pas aux besoins pour tous les autres ?
Et concrètement, comment tu l'animes tout ça ? Comment ça vit ?
Concrètement, du coup, ça va être propre à ce qu'on fait dans la boîte. On a une sorte de budget. Au final, le dev, il va avoir potentiellement il va avoir plus de 50% de temps pour faire de la feature. Et ensuite, on a un budget, en fait, aujourd'hui, c'est un budget qui est à 15% sur ce qu'on appelle les technical tasks. Donc au final, c'est un peu un budget refacto qu'on a et qui est alloué au final à quand on détecte des besoins potentiellement d'évolution de framework ou de mise en place de systèmes un peu généralisés pour pouvoir répondre à des problématiques récurrentes, on va utiliser ce budget-là et tout le monde peut y participer, tous les devs y participent.
Ok, donc ça, ce que tu dis, c'est que concrètement, sur les sujets, ce genre de sujets, vous allouez de l'énergie. Et ça, c'est déjà hyper important de le cadrer parce que ça permet de donner un champ d'action, en fait. Comment tu fais pour synchroniser ? Donc, est-ce que c'est ton job ? Imagine, il y a une nouvelle version de, je sais pas quel framework j'ai sous-utilisé. Il y a une nouvelle version qui a une feature trop cool, mais qui va amener encore une énième manière de faire. Comment ça se passe pour prendre la décision de passer à cette version, de l'utiliser ou pas?
Bah du coup, généralement, on va être très très pragmatique. Si c'est nouveau, on ne va pas l'utiliser. On va attendre que ce soit éprouvé par un peu la communauté. Et ensuite, on va vraiment se poser la question, est-ce qu'on en a besoin maintenant tout de suite? Est-ce que c'est bloquant pour nous de ne pas avoir accès à cette technologie-là? Est-ce que ça va nous faire gagner vraiment du temps, que ce soit du temps de dev ou du temps du gain de temps au final sur la maintenance de la base de code. Et rien qu'avec ça, au final, on arrive assez rapidement à éviter de partir de surfer sur la vague de la hype de nouvelles stacks, parce qu'on va toujours se reposer la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'avoir maintenant tout de suite?
Et cette discussion, elle a lieu comment? Via un Slack, via une GitHub issue, via un doc?
Et ben, au final, ça va dépendre. On a des process assez ouverts au final. Et par exemple, à l'époque, on avait une guilde. Par exemple, on avait la guilde Front, où les gens qui étaient vraiment proficients et qui étaient autonomes sur la stack et qui avaient une belle vision, qui avaient eu pas mal d'expérience sur le front et qui se considéraient, enfin, qui étaient des experts au final sur la stack front, et ben, on pouvait se réunir, on pouvait un peu remonter toutes les problématiques qu'on avait sur la stack par rapport à tous les autres devs. Et au final, on priorise un peu, OK, ça c'est les pain points, comment on peut y répondre? Et là, s'il y a vraiment une solution technique pour répondre à les pain points, bah là, on priorise, bien évidemment. Et au final, ça peut de temps en temps être pas forcément on va utiliser une nouvelle techno, mais plus potentiellement, ah bah tiens, en fait, il manque de la documentation, ah bah tiens, il manque ci, il manque ça. Et c'est pas toujours la réponse, c'est pas toujours on va utiliser la dernière nouveauté de React, par exemple.
Ok, en fait, dans ta manière de tourner les choses, j'ai l'impression que l'essentiel du boulot, c'est d'éviter de changer les choses, d'éviter de suivre la mode. Dans ton discours, j'entends comme une espèce de, un peu une crainte par rapport à ça, dans le sens de justement quels vont être les impacts sur notre stack et notre manière de bosser. Et personnellement, je ne peux que souscrire à cette prudence-là. Ça renvoie à un épisode qu'on avait fait avec Arnaud Lemaire sur l'innovation conservatrice. Donc, cher auditeur, je t'invite à aller l'écouter. Mais si on en revient à cette histoire de guilde, donc histoire qu'on puisse s'imaginer là, c'est quoi? C'est 6 personnes qui se retrouvent autour d'un café pendant 1 heure qui discutent le bout de gras, et c'est plus nombreux que ça, c'est quoi l'ordre de grandeur? Et puis surtout, comment ça marche quand les gens sont pas d'accord? Tu vois, ça c'est une question que j'aime bien aborder, parce que en général dans les guildes tu vas trouver des gens qui sont assez opinionated, comme on pourrait dire, qui ont des avis assez marqués sur la manière de faire les choses. Est-ce que je constate quand dans les organisations, dès qu'elles commencent à avoir justement plusieurs personnes comme ça qui ont des opinions marquées, c'est qu'elles sont pas toujours d'accord entre elles. Et du coup, la grande question, c'est comment tu fais pour trouver soit un consensus, soit pour que chacun puisse s'exprimer en fait.
Et bah pour ça, on se cherche un peu. Je ne vais pas te cacher qu'on se cherche un peu. On a essayé plusieurs itérations là-dessus. On avait eu à l'époque, on a fait ce qu'on appelle une sorte de guilde senior, où les gens les plus expérimentés se retrouvaient. On avait une liste de sujets où tous les devs pouvaient voter sur la liste. On prenait les sujets les plus votés et on essayait de trouver un consensus. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on avait des réunions de 1 heure où on se réunissait, on était du coup 6-7 et on parlait du sujet et on se posait la question comment on arrive à le résoudre. Une fois qu'on avait une solution, on s'est dit OK, bah maintenant, comment on le fait rentrer dans l'ADN de la tech dans la boîte, comment on a fait en sorte que ce soit pris, que ça prenne au final et que les gens deviennent moteurs sur cette solution. Ça, c'est une tentative.
Et ça, c'était quoi les pros and cons de cette approche-là?
Bah, pour moi, le plus gros con qu'on a eu, ça a été très facilement la vision un peu élitiste de ce regroupement de personnes qu'on va considérer plus seniors. Et donc, du coup, quand tu es nouveau et qu'on te dit, au final, on a décidé de faire ça sur ce sujet, et que toi, tu es nouveau et que tu n'as pas eu l'occasion, au final, d'apposer tes arguments, eh ben, y a peut-être un peu plus de friction pour accepter la décision.
Ok.
Et donc ça a été une itération qu'on a eue et qui n'a pas forcément fonctionné. On a essayé d'autres itérations.
Ok. Et c'est quoi les gros. Aujourd'hui, vous faites comment pour traiter cette question? Je comprends que c'est work in progress et c'est tout à ton honneur d'être lucide là-dessus et de partager. Justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que je pense que de mon expérience, vous êtes loin d'être les seuls à avoir le problème. Comment, là, aujourd'hui, c'est quoi l'état de là où vous en êtes, de ce que vous essayez sur ça?
Alors aujourd'hui, l'état, c'est de se dire que n'importe qui peut de toute façon relever ce genre de sujet. Et donc au final, on a deux choses. Soit c'est sur un ensemble donné de qui appartient à une stack. Et donc du coup, bah, par exemple, on vient de voir la naissance d'une guilde mobile où il y a 5-6 personnes pour qui ça les intéresse vraiment de travailler sur comment on améliore la stack mobile au sein de la boîte. Et donc ces gens-là vont avoir des réunions de 1 heure toutes les 2-3 semaines et ils vont essayer d'avoir un suivi de toutes les actions qu'on peut mener pour améliorer l'état. Et sinon, à côté de ça, on essaye un nouveau format qui est plus lié au monde open source. C'est des RFC, Request for Comment. Et au final, les gens ouvrent une issue et ils parlent d'un sujet. Et là, tout le monde peut venir à poser ses commentaires. Et à la fin, il y aura un dernier round avec des sponsors et des gens un peu plus expérimentés qui vont prendre tous les arguments, qui vont peser le pour et le contre et qui vont venir avec une décision.
Et donc là, on est sur une décision qui est prise par toujours un petit comité, mais cette fois éclairée par les commentaires de tout le monde, en fait.
Exactement.
Ok. Eh bien, écoute, Christophe, je vois la timebox qui arrive déjà à sa fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur ce que vous faites chez Doctolib, ils peuvent venir où?
Alors du coup, on a un blog sur Medium, donc Medium Doctolib, et on va avoir un onglet Tech and Product.
Cool. Ben, on mettra le lien dans la description. Merci, Christophe.
Merci.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode comme toujours. Je pense que le sujet s'adapte assez bien à une écoute partagée. Si tu rencontres ces sujets-là, ces questions-là, de problèmes d'enjeux inter-équipe, eh bien, je te propose d'organiser une écoute commune avec quelques-uns de tes collègues, de récolter le feedback et de voir, j'espère que ça vous aura aidé à progresser. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.